La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'histoire de la vie du Gréco, c'est celle d'un homme peintre d'icônes, né en Crète et parti à Venise, s'ouvrir à d'autres manières, notamment à celle du Titien, avant d'aller à Rome où il perfectionne son regard et enfin en Espagne où il s'installe définitivement. Ce parcours, c'est autant le chemin d'une vie qu'un moment de l'histoire de l'art et c'est aussi, vous l'avez entendu, la colonne vertébrale de notre semaine. Pascal Hamel nous en a donc déjà parlé lundi, mais sous l'angle biographique au cours de notre émission introductive. Le Grand Palais à Paris célèbre cette année le peintre de Tolède au travers d'une exposition qui se tient jusqu'au 10 février. Nous l'avons visité hier en compagnie de Charlotte Chastel-Rousseau et de Véronique Gérard-Powell. Et puis demain, nous terminerons notre semaine avec le peintre Jean-Paul Marcheschi qui nous parlera de son rapport avec le natif de Candie, mais également des avant-gardes qu'il a inspirées au XXe siècle. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour replacer le Gréco au sein du siècle d'or espagnol et plus généralement pour parler de ce moment de l'histoire de l'art, nous sommes avec Guillaume Kintz, co-commissaire de l'exposition Gréco du Grand Palais. Il dirige la collection d'art européen du musée Kimball au Texas, où il a donc pris en charge tout ce qui concerne l'art européen. Il est enfin l'auteur du livre Le siècle d'or espagnol de Gréco à Velázquez qui vient de paraître aux éditions Citadel et Masno. Bienvenue à tous. Voici la Compagnie des œuvres. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. Et bonjour, Guillaume Kintz.
Bonjour.
Alors, dans le dossier de presse de l'exposition Gréco, il y a un moment où on vous demande que serait le Gréco s'il était une chanson. Et vous avez répondu Don't Stop Me Now de Queen. Pourquoi ? Est-ce que rien n'arrête le Gréco ?
Exactement. Mais je pense qu'effectivement, rien n'arrête le Gréco et sa trajectoire absolument inouïe au milieu de ce 16e siècle. Et on est bien la preuve. Il y a par ailleurs une énergie dans la peinture de Gréco, une force, une absence de sens du compromis également que j'ai beaucoup retrouvé que je retrouve beaucoup dans la musique de Queen.
Freddie Mercury.
Exactement.
Aussi. Et un peu irascible peut-être aussi Freddie Mercury comme le Gréco.
Sans doute, assez sûr de lui en tout cas. Et le hasard fait que la préparation de cette expo a coïncidé avec la sortie du film et que mes différents voyages à travers le monde pour convaincre les prêteurs de prêter leur Gréco, j'ai entendu du Queen tout le temps. Donc ça a fini par ne faire plus qu'une seule énergie électrique.
Alors on va parler de ce Gréco qui était un peintre rock dans le contexte du siècle d'or espagnol, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Le siècle d'or, c'est ce moment de l'histoire espagnole durant laquelle ce pays rayonne le plus culturellement parlant. Est-ce qu'on peut commencer par le définir comme ça, Guillaume Kintz?
On peut effectivement le définir comme cela, surtout que ça couvre d'une certaine manière les diverses acceptions qu'on peut avoir de cette notion de siècle d'or, parce que il ne brille pas pour tout le monde au même moment ou au même endroit, selon qu'on étudie l'histoire, selon qu'on est un historien, ou qu'on étudie l'histoire politique notamment, selon qu'on étudie la littérature ou selon qu'on étudie les arts.
Parce que le siècle d'or espagnol, il est d'abord politique, économique.
Il est d'abord économique, évidemment. C'est la découverte des Amériques, l'arrivée massive d'or qui teinte d'une certaine manière ce siècle de cette couleur dorée qui développe l'Espagne qui vient de se réunifier à la fin du XVe siècle. De sorte que pour certains, le siècle d'or commence dès la fin du XVe siècle. Pour d'autres, dont je fais partie, mais c'est aussi à cause de mon prisme ou de mes œillères d'histoire de l'art, je suis un peu plus restrictif chronologiquement sur ce que c'est que le siècle d'or pour moi, pour l'histoire de l'art en tout cas.
On peut pas dire qu'il commence en 1492, comme certains historiens justement le soutiennent, pas pour vous en tous les cas.
Disons que pas pour la peinture. Et dans le livre que je consacre au siècle d'or, j'ai pris soin de mettre de Greco à Velázquez, c'est-à-dire de directement planter la scène dans le monde de la peinture. Mais il est vrai que l'Espagne se développe d'une certaine manière à partir du moment où elle va être réunifiée. Et cela va coïncider, c'est en 1492, avec la prise de Grenade, cela va coïncider avec la découverte des Amériques, donc avec l'arrivée de l'or qui va permettre une prospérité incroyable dans la péninsule.
Donc difficile notion, ce siècle d'or s'étale peut-être au fond sur deux siècles, le 16e et le 17e, tout comme d'ailleurs le Gréco déborde sur ces deux siècles-là.
Exactement. Là où tout le monde s'accorde, c'est sur le fait qu'il s'arrête à la fin du XVIIe siècle, qu'il s'arrête avec la fin des Habsbourg et avec l'arrivée des Bourbons. Là, on passe sur quelque chose d'autre avec le XVIIIe siècle espagnol.
Et pourquoi ? Qu'est-ce que les Bourbons, finalement, viennent clore ?
Je pense qu'il ne faut pas oublier que toutes ces notions, même si dès l'époque on avait conscience de vivre un âge d'or d'une certaine manière, à cause de l'or qui arrivait très concrètement, il ne faut pas oublier que ces notions sont des notions qui se construisent et qui se nourrissent a posteriori de manière rétrospective. Et les Bourbons, c'est une dynastie étrangère pour l'Espagne à ce moment-là, donc on passe vraiment dans un... Au XIXe siècle, on passe vraiment dans un autre rapport à l'histoire d'Espagne. On amorce un déclin, ça c'est certain, et c'est vécu comme ça. On amorce un déclin à partir de la fin du XVIIe siècle. Même Charles II, le dernier des Habsbourg, n'est plus que l'ombre des Habsbourg.
Alors, ce qui est intéressant, Guillaume Kintz, c'est qu'il y a d'abord, en effet, cet argent qui arrive massivement, et c'est finalement par l'argent, par le développement très fort de l'Espagne à ce moment-là, que le siècle d'or pictural, mais aussi artistique de manière générale, va finalement pouvoir se développer.
Exactement, c'est vraiment la combinaison de deux facteurs. Le premier, c'est l'unification territoriale de l'Espagne, donc qui se fait une fois que la Castille et l'Andalousie, en gros le Nord et le Sud, sont réunifiés par les rois catholiques à la fin du XVe siècle, au moment de la prise de Grenade, après la prise de Grenade. Cela va pacifier d'une certaine manière la péninsule. Quand il y a la paix, c'est propice au développement de la prospérité, à l'installation de foyers artistiques, etc. Et évidemment, le contexte de la découverte des Amériques va apporter les moyens à cette paix de faire des beaux enfants, et ces beaux enfants, ce sont les grands peintres, les grands sculpteurs, les grands architectes du siècle d'or.
Et les grands écrivains aussi.
Là, pour le coup, avec les écrivains, on s'en sort à peu près en termes de datation, en tout cas de mon point de vue, puisque moi j'ai tendance à faire commencer le siècle d'or à la fin du XVIe siècle, au moment où Philippe II va lancer le grand chantier de l'Escorial, donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle, au moment où Gréco va arriver sur la scène artistique, va arriver en Espagne, donc là on est vers 1576-1577, et Gréco est un strict contemporain de Cervantes. Gréco, on le fait naître en 1541, Cervantes naît en 1547, Gréco meurt en 1614, Cervantes meurt en 1616. Alors là, pour une fois, les dates arrangent tout le monde.
Sait-on si l'un a eu connaissance de l'autre, et inversement?
On peut imaginer que l'un a eu connaissance de l'autre. Oui, ces milieux-là, ces milieux intellectuels et artistiques sont tout petits, et Tolède est un grand centre, notamment littéraire.
Alors il faut remonter quand même un tout petit peu avant le XVIIe. Vous avez dit tout à l'heure que les Bourbons, c'était l'arrivée d'une dynastie étrangère, mais des dynasties étrangères, il en est arrivé d'autres en Espagne. Et je pense en particulier à Charles Quint, qui est, quand il arrive au pouvoir, enfin quand il récupère finalement cette portion de territoire et qu'il l'agrège à sa couronne, ça va déjà être une préparation stylistiquement parlant du siècle d'or, Guillaume Kintz.
Alors Charles Quint, effectivement, il ne naît pas du tout en Espagne, il parlait sans doute d'ailleurs pas l'espagnol, mais sa mère est espagnole, ses grands-parents sont espagnols, c'est son héritage, l'Espagne, d'une certaine manière. Alors, d'ailleurs, on va pas les appeler les Habsbourg d'Espagne, on va les appeler les Austrias, c'est-à-dire les Autrichiens, mais avec en le prononçant, en utilisant l'espagnol pour le caractériser. Philippe II va être le premier Habsbourg vraiment, vraiment espagnol pour le coup. Et c'est symptomatiquement avec lui que l'on va pouvoir faire commencer le siècle d'or, même si Charles Quint était un mécène incroyable et a vraiment unifié aussi en termes artistiques, en tout cas a commencé l'unification artistique de l'Espagne.
Et Philippe II, justement, ce sera l'Escurial.
Et Philippe II, ce sera l'Escurial qui se veut comme le monastère, le palais, le cimetière royal de cette nouvelle dynastie. Au départ, c'est un projet pour faire une tombe digne de ce grand roi qu'a été Charles Quint.
Mais avant, il y a eu le palais de Grenade. Et là, on est bien avec Charles Quint, qui est déjà une importation du style italien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire la spécificité de ce très beau palais avec cette cour ronde, très étrange ?
Absolument, c'est un palais qui a été construit par un architecte espagnol, Machuca, mais qui s'était formé en Italie et qui a importé au cœur de ce complexe monumental de style arabe, l'Alhambra, l'architecture de Michel-Ange. Cette architecture très plastique de Michel-Ange, et ça donne une construction absolument magnifique, absolument régulière et un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire européenne de l'architecture pour le coup.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Alors après, ces prolégomènes entrons donc dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'Escorial. L'Escorial ou l'Escurial d'ailleurs, comme on le voit parfois écrit.
On dit plutôt
écrit.
L'Escorial. À mon avis, l'Escurial, c'est un usage qui existe uniquement en français, me semble-t-il d'ailleurs, et qui a des origines littéraires, un peu romantiques, mais on dit l'Escorial, il faut dire l'Escorial.
Donc l'Escorial, à une soixantaine de kilomètres de Madrid, c'est un projet d'édifier vraiment un palais qui est aussi un monastère, qui est aussi une bibliothèque, qui soit dans un style espagnol. Est-ce qu'on a là la création vraiment d'une architecture qu'on pourrait qualifier d'espagnol?
Absolument. Je crois qu'avec l'Escorial commence à se mettre en place une identité nationale qui se voit, qui est visible d'une certaine manière. L'Escorial, c'est un panthéon pour Charles Quint, un panthéon qui doit fixer la dynastie des Habsbourg d'Espagne. C'est un projet monumental, c'est le plus grand chantier d'Europe au moment où il est lancé dans la seconde moitié du XVIe siècle. Avec ce style très, très dépouillé, qu'on appelle d'ailleurs le style désornementé, desornamentado, qui va devenir, qui n'est pas encore caractéristique de l'architecture espagnole, mais qui va imposer un standard dans l'architecture espagnole.
Qu'on retrouverait encore aujourd'hui dans une espèce d'ADN de l'architecture espagnole ou qu'en tout cas aurait traversé un petit peu les siècles jusqu'à nous.
Disons que ça a véritablement conditionné une sorte d'éthos esthétique de l'art espagnol, une certaine sobriété qu'on va retrouver dans l'art espagnol.
Certaine rigueur peut-être.
C'est une certaine rigueur, un dépouillement aussi, une fierté architecturale. Même ce qui est assez étonnant, c'est que le monastère de l'Escorial en tant que tel est assez peu, est assez peu indigène. Il prend des éléments qui viennent de l'architecture flamande, qui dépend à l'époque, la Flandre dépend des Pays-Bas espagnols, ça dépend de l'Espagne. Mais ce cocktail, cette synthèse, va créer une architecture qui va devenir proprement espagnole, à laquelle le XVIIe siècle va encore faire référence et à laquelle certains régimes, dans des contextes politiques qui ne sont pas forcément très enviables, vont également faire référence. Le franquisme, par exemple, va beaucoup reprendre ces grands standards de l'architecture espagnole au moment de construire les nouveaux quartiers dans le nord de Madrid.
Mais qui aussi, dans le cas du franquisme, correspondent assez bien à un pouvoir vertical. C'est une architecture qui montre vraiment le pouvoir de la dynastie des Habsbourg, en l'occurrence.
C'est une architecture absolument politique qui est faite, comme on le disait, pour installer, établir une dynastie, mais qui a aussi une vocation de vitrine. Ce que veut faire Philippe II avec l'Escorial, c'est de montrer ce qu'est l'art de la contre-réforme. La contre-réforme, c'est ce qui fait suite au Concile de Trente, lorsque l'Église catholique veut se réformer par rapport à la réforme protestante et se remettre en ordre de bataille et contrer le protestantisme. Eh bien, il va y avoir toute une sorte de recommandation d'un certain retour à l'ordre, d'un retour au sérieux, d'un bannissement de la licence et de l'excès, et l'Escorial va vouloir incarner ce sérieux, incarner cette rigueur nouvelle à laquelle appelle l'Église, à la fois dans son architecture et dans sa décoration.
Et donc, pour faire cela, Philippe II fait venir d'Italie notamment tout un tas d'artistes, et c'est dans ce contexte que va arriver le Gréco.
Tout à fait. Alors d'abord, Philippe II a plutôt du mal à faire venir les artistes, parce que les artistes italiens, ils cherchent des talents en Italie. Les artistes italiens n'ont pas particulièrement envie de quitter l'Italie, mais certains le font, et Gréco va profiter de cet appel d'air et va arriver en Espagne.
Sous le nom de Gréco, Domenikos Theotokopoulos est entré vivant dans le mythe. N'était-il pas né en Crète, lieu du mythe, où l'homme à tête de taureau frappait d'un front frisé les murailles du labyrinthe? Et puisque la mythologie du peintre autorise toutes les audaces, n'aimerions-nous pas l'imaginer naissant dans le labyrinthe et s'allongeant jusqu'à incarner son ombre pour fuir sa geôle géométrique vers un ciel peuplé d'un désordre d'ailes, de linges qui se tordent, qui se déchirent et de rayons? Du labyrinthe de Crète, véritable préfiguration du plan de Tolède, il passe au labyrinthe de Venise, où la ligne allongée, tourmentée dans l'eau, le fécondera sans doute davantage que l'école de Titien ou de Tintoret. Car les âmes violentes, comme celles du Gréco, puisent leur force dans les spectacles où le regard des autres ne s'arrête pas. Il arrive même qu'ils trouvent de l'aide chez ceux qu'ils moquent. Et je me demande si ce Michel-Ange, qu'il méprisait, ne le délivra pas du tourment de suivre ses maîtres, et s'il n'y découvrit pas un monde où la peinture transparente cède la place au bas-relief. Dès 1575, à Rome, il deviendra Gréco l'innombrable, peuplé des fantômes de Byzance et de l'Égypte, prêt à s'enraciner à Tolède, à choisir un sol dur où il s'enfonce comme un couteau et d'où il épanouira les branches torses d'un arbre frappé par la foudre. Désormais, le voici en proie à l'univers secret des noyés, des pendus, des morts statufiés dans leur dernière pose par le magnésium des catastrophes.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec ce nouvel extrait du mythe du Gréco, le texte de Cocteau que nous lit cette semaine Pierre-Marie Baudouin. Toute l'histoire du Gréco, c'est donc, on l'a souvent dit cette semaine, l'histoire de ce trajet à travers l'Europe, mais qui conduit en Espagne. C'est comme s'il agrégeait au fur et à mesure, à Venise, à Rome, des techniques, des façons de faire, et il va presque les faire exploser dans cette Espagne, où il trouve quoi finalement? Qu'est-ce qui permet au Gréco de se dépasser lui-même quand il arrive sur ce territoire espagnol, selon vous?
Alors déjà, en Espagne, il trouve de la place qu'il n'a pas trouvée à Venise, ville très petite et déjà surpeuplée de peintres, la place qu'il n'a pas trouvée à Rome, où la plupart des grands chantiers étaient des chantiers à la fresque, il ne maîtrisait pas la technique de la fresque, étaient des tableaux d'hôtel, il n'était pas assez connu pour avoir ce type de commande. À Tolède, enfin, il trouve une clientèle qui va lui permettre de s'épanouir, et il trouve aussi ce milieu humaniste qui partage ses idéaux de la Renaissance. Et donc c'est, comment dirais-je, ce cocktail tolédan qui va rencontrer effectivement sa superposition de culture, de langue, de référence, de rapport à l'image, et qui va donner ce feu d'artifice foisonnant qu'est devenu son art.
Mais du coup, est-il un peintre espagnol, le Gréco?
Je ne sais pas s'il était un peintre espagnol. Là aussi, l'histoire de l'art, elle s'est construite au XIXe siècle, alors qu'on construisait l'Europe des nations. Donc, il faut vraiment relativiser ce genre-là. Ce qui est certain, c'est que l'art espagnol doit énormément à Gréco. C'est dans l'autre sens qu'il faut mettre les choses. Il est un peintre de l'école espagnole. Ça fait aucun doute. Qu'est-ce que ça veut dire être espagnol
pour un peintre? Qu'est-ce que ça veut dire être espagnol pour un peintre?
Eh ben, je pense que ça veut dire quand on s'appelle Vélasquez, quand on grandit en Espagne à Séville, quand on travaille pour le roi, quand on est chargé d'incarner un idéal qui est un idéal politique, absolutiste, oui, on incarne d'une certaine manière la vision politique que l'Espagne veut donner d'elle-même à un moment donné. Quand on est un peintre comme Gréco, on incarne autre chose, on incarne une ambition, une ambition pour la peinture, des rêves, on incarne une culture, et on rencontre surtout des commanditaires, et c'est cette rencontre qui crée un art qui après reste dans la postérité ou ne reste pas dans la postérité, mais qui va fabriquer l'art espagnol. Gréco est plus un ingrédient que l'aboutissement d'une recette.
Mais un ingrédient qui aura une place déterminante, ce qui en fait un des grands marqueurs ce siècle d'or espagnol.
Absolument, avec Greco, pour la peinture, commence le siècle d'or espagnol. Ça, c'est absolument évident.
Ça, mais on peut le dater, on peut dire que c'est avec lui. Enfin, en tout cas, c'est le choix que vous avez fait.
On peut absolument dire que c'est avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de peintre avant. Ça veut simplement dire qu'avec l'arrivée de Greco et l'arrivée d'une certaine conception pour la peinture, très clairement, il fait de la peinture quelque chose en Espagne, et cette ambition va être épousée par d'autres peintres après lui, à commencer par Velázquez.
En tout cas, des gens comme Maurice Barrès ont eu tendance à confondre l'Espagne, l'âme espagnole, avec le Greco. On l'écoute.
Le voilà parti pour être un peintre de l'âme, et de l'âme la plus passionnée. L'Espagnol du temps de Philippe II. Il laisse à d'autres de représenter les martyrs affreux, les gesticulations violentes, toutes ces inventions bizarres ou cruelles qui plaisaient à un peuple de mœurs dures. Mais il gardera ce qui vit de fierté et de feu au fond de ses excès. Ils valent pour ramener toujours les esprits au point d'honneur et aux vénérations religieuses. Et dans son œuvre, Greco manifestera ce qui est le propre de l'Espagne, la tendance à l'exaltation des sentiments. Le Greco abandonne, rejette toutes les habiletés théâtrales qu'il avait apprises à l'école des Vénitiens. C'est qu'il possède une âme profonde et attentive. Avec un magnifique sang-froid, il élimine tout ce qui n'est pas l'essentiel et il s'élance violemment vers ce qui est pour lui l'absolu. Greco semble fantasque, ignorant des règles. Il les connaît, mais les dépasse, car une rhétorique n'est point le talent. Il domine cette Castille dont il fait sa matière. Il est devenu un de ces hidalgos à idées fixes, toujours entraîné par l'esprit d'aventure, par la chimère, prêt à rouer de coups et à brûler celui qui ne rendra pas hommage à la suprématie de leur Dulcinée et de la Vierge Marie, ou bien encore à sacrifier la guenille humaine, leur corps ou celui des autres, pour la conquête de leur fabuleux désir. Ces grands songeurs, ces visionnaires que Cervantes fait trébucher si durement et pour lesquels, tout de même, on éprouve le plus amical respect. Greco est devenu leur pareil. Voyez ses portraits.
Alors il y a peut-être un peu de cliché dans cette manière d'assimiler le Greco à l'exaltation des sentiments et à l'Espagne. Mais tout de même, est-ce qu'il n'est pas un peu devenu, en effet, un hidalgo ?
Alors, tout d'abord, je crois qu'il y a beaucoup plus... Barrès parle beaucoup plus de sa propre exaltation que lui suscite Greco. Donc c'est tout à fait légitime que de l'exaltation proprement de Greco. Greco, au bout d'un moment, comme n'importe quel artiste, comme n'importe quel écrivain, une fois que son œuvre est livrée, elle ne lui appartient plus entièrement, et il est tout à fait légitime que des lectures se fassent et soient contradictoires. Par ailleurs, c'est pas du tout un problème. Mais sincèrement, je ne pense pas que Greco était un grand peintre de l'exaltation. Pour moi, Greco, c'est vraiment un artiste du concret. Au contraire, je ne pense pas qu'il ait voulu plus exprimer l'Espagne qu'autre chose. Il est en Espagne, les ciels qu'il voit ce sont ceux de Tolède, le vert électrique qu'il voit c'est ceux de l'herbe de la vallée du Tage, etc., etc. Donc l'Espagne le pétrit.
Un peintre réaliste.
C'est un peintre qui se voit lui-même, qui se pense comme un grand peintre naturaliste. Ça nous surprend aujourd'hui parce qu'on a l'impression que sa peinture part dans tous les sens. Mais pour lui, il exprime la réalité, son art exprime une réflexion sur la nature, pas une nature réduite à ses apparences, mais une nature qui est complexe, une nature des températures, du mouvement, de la durée, du temps, des impressions. C'est pour ça qu'il a tellement intéressé les impressionnistes et les expressionnistes, parce qu'il tire vraiment de son regard sur la nature le plus possible.
Donc il y a peut-être un petit contresens aussi dans la manière dont Barrès exalte une espèce de fierté nationale. On sait que ça ressemble bien à Barrès. Je ne sais pas si les Espagnols considèrent le Greco comme un des leurs et s'ils sont fiers de ce peintre. Mais peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut.
Raison. Non, je crois qu'ils le considèrent comme un des leurs et ils ont raison. Greco a été adopté par l'Espagne. Ils s'en sont extrêmement fiers. Ils ont raison d'en être fiers. Par ailleurs, Greco, au moment de sa redécouverte à la fin du 19e siècle, il y a toute un mouvement intellectuel nationaliste aussi, de construction ou de reconstruction plutôt identitaire de l'Espagne qui va assimiler Greco. Donc il joue un rôle tout à fait important dans la reconstruction de l'identité espagnole à partir de la fin du 19e siècle, après des époques extrêmement mouvementées. Je dis simplement que d'un point de vue purement positiviste, historique, les choses sont un peu plus compliquées ou un peu moins romantiques que cela.
Donc la redécouverte du Greco, elle n'est pas uniquement française ou américaine, elle est aussi passée par l'Espagne.
Elle a commencé
directement.
En Espagne.
Elle a vraiment
Espagne. C'est absolument l'Espagne qui a redécouvert Greco, des intellectuels, des écrivains, à la fois à Barcelone et à Madrid, qui vont redécouvrir Greco. Et puis Paris va être la seconde place où on va redécouvrir Greco, pour une raison simple aussi, c'est que beaucoup... D'abord, la France a été éveillée par l'Espagne suite aux guerres napoléoniennes, et puis à la collection espagnole qu'a installée Louis-Philippe au Louvre entre 1838 et 1848. Et puis beaucoup d'Espagnols se sont installés à Paris, ont fui l'Espagne pour s'installer à Paris, et donc du coup ça crée une symbiose très grande entre ces deux pays. Picasso par exemple va découvrir deux fois Greco, une fois en Espagne et une fois à Paris.
Et différemment,
avec deux rapports qu'il va nouer à l'artiste complètement différents. En Espagne, Picasso va regarder Greco comme un représentant de la tradition, et en France, il va le redécouvrir un peu à travers les yeux de Cézanne et va voir un grand génie de la peinture, il va y voir le Greco plastique.
Alors de la tradition, mais de quelle tradition? Donc vous nous expliquez, Guillaume Kintz, que le Greco est le premier peintre du siècle d'or, mais il pourrait tout aussi bien être le dernier peintre de la Renaissance. De quel côté de la frontière faudrait-il le placer et quels sont les enjeux finalement?
Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de le placer d'un côté ou de l'autre de la frontière. On peut à la fois être le dernier peintre de la Renaissance et le premier peintre du siècle d'or.
Un peu comme Picasso d'ailleurs est le dernier des classiques et le premier des modernes.
Non, absolument, je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème, surtout que la question de frontière avec Greco, elle est inopérante. Greco est quelqu'un qui n'a pas de frontière, sa vie, sa trajectoire elle-même en est la preuve. Et avec Caravage, puisque Caravage est plus jeune mais meurt avant lui, ce sont un peu les deux seuls peintres qui vont tenir dans la nuit des arts, allumer la torche de l'ambition pour la peinture.
Mais alors s'il est le dernier peintre de la Renaissance, hein, il faut toujours schématiser un petit peu, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que c'est un humaniste? Enfin, quelles sont les valeurs finalement de la Renaissance qu'il porterait?
Ce que vraiment Greco retient de la Renaissance et la valeur qu'il veut défendre dans sa peinture, c'est que la peinture, ça n'est pas de l'illustration. La peinture, ce ne sont pas des images qui viennent simplement raconter un texte, en l'occurrence dans son époque, les Écritures saintes. La peinture, c'est du discours. La peinture, c'est de la rhétorique. La peinture doit convaincre. Donc, il charge la peinture d'une dimension spéculative, la peinture comme instrument de connaissance et d'expression du monde, et il charge la peinture d'une fonction d'avocat. La peinture doit défendre ses sujets et pas simplement les illustrer. Et c'est de là que vient, non pas l'incompréhension, mais en tout cas le malentendu avec Philippe II au moment du martyr de Saint-Maurice.
Alors, parlez-nous justement de cette incompréhension au moment la première commande finalement est faite au Greco et quand Philippe II ne semble pas vouloir l'accepter.
Greco est d'autant plus sûr au départ que son art va plaire à Philippe II qu'on dit Philippe II, grand amateur de peinture vénitienne, grand amateur de Titien. Et c'est tout à fait vrai. Greco peint un premier tableau pour Philippe II en 1578, qu'on appelle romantiquement le songe de Philippe II, qui est présent dans l'exposition. Le tableau va plaire puisque le roi va lui commander un autre tableau, le martyr de Saint-Maurice. Mais alors là, énorme incompréhension entre les deux hommes, puisque Greco va représenter un gigantesque tableau qui est fait pour l'Escorial, hein, pour la basilique, ça c'est important. Il va représenter un énorme tableau dans lequel le martyr lui-même est relégué au second plan, alors que au premier plan, il montre Saint-Maurice, grand général, en train de convaincre avec des gestes rhétoriques ses officiers de consentir au martyr. Donc, il ne fait pas du tout un tableau qui illustre un texte, un martyr. Il fait un tableau qui vante la puissance du discours, la puissance de l'art oratoire. Et c'est cela qui ne convient pas du tout à Philippe II, non pas pour des questions esthétiques, mais parce que il faut l'Escorial, la basilique de l'Escorial, c'est une vitrine publique de la contre-réforme. Il faut expliquer ce qu'est le martyr, ne pas y aller par quatre chemins.
Nous sommes sans doute habitués, après que nous avons découvert Greco et que nous en avons fait, au fond, un de nos artistes modernes, est en quelque sorte l'héritier de Cézanne, un contemporain de Picasso. Nous sommes donc habitués à voir en lui ce qu'il a de moderne, ce pourquoi nous l'avons aimé, ce pourquoi il nous a attirés, c'est-à-dire son étrangeté, sa singularité, sa très délirante originalité. En réalité, il faut bien nous rendre compte qu'il correspondait tout à fait à l'âme de la société de son temps. Il a été parfaitement accueilli à Tolède. Ce n'a pas été un artiste maudit. Il a été en contact avec toute la haute société, toute l'élite de Tolède, tous ces théologiens, ces humanistes, ces grands prélats qui étaient la fleur de la civilisation, de la cité impériale de Tolède. Il a reçu des commandes, il a été extrêmement fêté et admiré. C'est qu'en réalité, tout ce que nous trouvons d'étrange en lui, eh bien, correspondait à ce qu'il y a de plus courant à ce moment-là, de plus profondément espagnol dans la société de son temps. Et par conséquent, il faut le replacer dans son époque, il faut le replacer dans son milieu et ne pas oublier que cet artiste singulier, excessif, extraordinaire, eh bien, a représenté de la façon la plus exacte toute la splendeur de la civilisation espagnole au moment de son plus grand éclat, c'est-à-dire au moment du siècle d'or.
La Compagnie des Heures, c'est intéressant cette archive de Jean Cassou, Guillaume Kentz, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression de retrouver chez d'autres peintres de la même époque une manière identique à celle du Gréco. Et là, Jean Cassou nous dit, ben non, en fait, c'était très bien compris, c'était très facile finalement d'appréhender cette peinture à l'époque où elle était peinte.
Ce qui est certain, et il faut en juger d'après les documents et la multiplication des œuvres de Gréco en sont une preuve, c'est que sa peinture a été tout à fait acceptée. On sait par ailleurs qu'il a même occupé des fonctions officielles au sein de commissions ecclésiastiques pour vérifier la conformité des images saintes, à la fois conformité d'un point de vue iconographique, de sujet, et conformité en termes de qualité, parce qu'il n'était pas question qu'on laisse des mauvais peintres peindre des sujets religieux importants. Ça, c'est véritablement une conséquence du concile de Trente. Je partage absolument ce que dit Jean Cassou. Je crois que néanmoins il y a une originalité de Gréco. Cette originalité, c'est une fois encore celle de sa trajectoire, c'est-à-dire que son style est tout à fait cohérent par rapport à sa trajectoire. Un artiste formé dans l'art byzantin, converti au colorisme vénitien, stimulé par la force plastique de Michel-Ange et actif en Espagne, à Tolède, dans un des grands centres culturels et intellectuels de l'Espagne et de l'Europe. Donc si on met tout ça bout à bout, oui, Gréco est tout à fait cohérent avec lui-même, il n'y a aucun doute.
Mais ça veut dire qu'il y a un œil quand même qu'on a perdu en trois siècles, une manière de regarder, une évidence dans le regard qui tout d'un coup a disparu, qui a peut-être disparu dès le XVIIIe siècle d'ailleurs.
Je crois que ce qui change beaucoup, c'est le livre et les livres illustrés. Parce que nous, on regarde Gréco comme dans toute la longueur de son itinéraire. Mais si on regarde Gréco comme peintre d'icônes, il peint comme tous les peintres d'icônes. Si on se déporte à Venise et qu'on regarde Gréco en train d'apprendre à peindre la Renaissance vénitienne, bon, il petit à petit, il s'approche de Véronèse, de Titien, de Tintoret. Quand on le voit peindre à Rome, au fond, il est encore très très vénitien à Rome, mais il peint pleinement comme un peintre de la Renaissance italienne aurait peint. Quand il est à Tolède, il apporte une nouveauté, mais qui est une nouveauté très vénitienne et qui, là encore, s'explique. Simplement, ce qui va se passer pour lui, et je crois que c'est là que peut-être on change un peu de paradigme, c'est que à Tolède, il n'aura à la fois plus aucune stimulation extérieure et il n'aura plus de barrière. Il va vraiment pouvoir construire un univers total, dans lequel d'ailleurs, et c'est vraiment l'angle fort de l'exposition, il va puiser, il va s'autociter, il va à chaque fois qu'il invente une nouvelle forme, il la réemploie ailleurs. Gréco va faire un Gréco-monde, il va y avoir un pan-Gréco qui va s'installer à Tolède, qui va inonder complètement l'art à Tolède, de sorte que l'art à Tolède, ce sera l'art de Gréco, il n'y aura pas d'autre art en dehors de celui de Gréco.
C'est ça que vous avez voulu montrer d'abord dans cette exposition du Grand Palais, Guillaume Kintz?
J'ai voulu montrer à quel point Gréco était une force créatrice, à quel point sa peinture était énergique, à quel point son imagination était féconde et puissante, et à quel point il avait voulu ne pas laisser mourir cette peinture de la Renaissance à laquelle il s'était converti tardivement. Faut imaginer un peintre qui est peintre d'icônes, il a 25 ans quand il change de vie. Il a 25 ans. À 25 ans, à l'époque, on est déjà un peintre très établi. Et lui, à 25 ans, il décide de laisser tomber l'icône et de changer complètement de voie, d'aller à Venise, d'apprendre une autre langue, à tout esthétique et linguistique, et de devenir non plus Domenico Theotokopoulos, mais vraiment de devenir Gréco.
Alors, le siècle d'or espagnol, sous-titré De Gréco à Velázquez, c'est le titre de votre livre chez Citadel et Masno. Guillaume Kintz, on a déjà bien parlé du Gréco, c'est normal, c'est le sujet de notre semaine. Parlons un peu de Velázquez. Est-ce que on peut les rapprocher au sein de cette même période, alors évidemment qui est une période d'historien de l'art, mais qu'on appelle le siècle d'or? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont quand même, qu'on peut les mettre ensemble?
Alors d'abord, ils ont quelque chose en commun, c'est la figure de Pacheco, Francisco Pacheco. Francisco Pacheco, c'est le maître de Velázquez, donc c'est un peintre de Séville, un théoricien de l'art par ailleurs, surtout d'ailleurs un théoricien de l'art, et Pacheco, en 1611, va visiter Gréco à Tolède. Et 1611, c'est le moment où le jeune Velázquez entre dans l'atelier de Pacheco. Donc forcément, Velázquez a entendu parler de Gréco, et dans les années 1620, lorsque Velázquez va faire un premier voyage en Castille, il est absolument certain qu'il doit passer par Tolède, qui est encore une ville extrêmement importante, et qu'il doit voir des œuvres de Gréco. On a souvent cherché à voir comment est-ce que Gréco a pu influencer Velázquez, sans doute par la force de la présence de ses portraits, par exemple, sans doute dans des solutions de composition. On a voulu comparer le Saint-Ildefonse de Velázquez avec des œuvres de Gréco, on a voulu comparer les lances de Velázquez avec l'enterrement du comte d'Orgaz. C'est possible. Velázquez n'avait pas forcément besoin de Gréco pour devenir Velázquez, mais Velázquez a vu Gréco, c'est certain.
Il y a 50 années entre la naissance du Gréco et la naissance de Velázquez, peu ou prou.
À peu près.
Donc il a forcément vu Velázquez. Il s'est sans doute aussi interrogé sur le rapport, pardonnez-moi, il a sans doute vu le Gréco, il s'est interrogé sur son rapport avec le roi, parce que Velázquez était un peintre de cour et qu'il a travaillé justement toute sa vie, lui, dans ce contexte-là. C'est peut-être aussi ce qui fait une grosse différence entre les deux, mais tous les deux ont frayé, évidemment, avec la cour.
Absolument, mais pour le coup, Velázquez est vraiment le grand modèle du peintre courtisan, du peintre de cour, un peintre souverain, mais un peintre de cour quand même. Gréco, c'est pour le coup complètement autre chose. C'est un peintre, d'une certaine manière, oui, isolé.
Il est plus rock alors, comme on disait au début de l'émission, il est plus libre.
C'est vraiment un électron libre, il est plus libre, ça l'empêche pas de se soumettre parfois à des commandes précises, etc., mais ça l'empêche pas non plus de refuser, de faire des procès quand il estime qu'il est mal payé, quand on lui demande de faire une modification qu'il ne veut pas la faire, etc., etc. Au fond, même si on a fait de Velázquez le peintre des peintres, Gréco défend beaucoup plus la peinture que Velázquez. Au moment où Velázquez règne sur la peinture en Espagne, à la cour, il y a des velléités de créer une académie des peintres. Velázquez ne lève pas le petit doigt pour aider ses collègues à créer une académie des peintres. Au bout d'un moment, en tout cas, c'est une conviction forte que j'ai, Velázquez est gêné lui-même par le fait d'être peintre, et il veut véritablement être uniquement vu comme un courtisan qui fait de la peinture. Il va faire toute une sorte de procès au sens de démonstration qu'il est d'origine noble, etc. C'est pour ça que vous parliez d'Hidalgo tout à l'heure. Velázquez va vouloir se voir reconnaître son statut d'Hidalgo. Gréco ne va jamais chercher à paraître noble ou quoi que ce soit. Pour Gréco, son ambition sociale, c'est d'être un artiste au sens plein du terme, au sens de la Renaissance, que la Renaissance donne aux artistes. Velázquez va vouloir faire un tout petit peu oublier qu'il est un artiste sur la fin, pour être un chevalier de Santiago.
Un peu dans les sujets aussi, dans les figures qui sont représentées par l'un ou par l'autre. Parce que pour le Gréco, on est dans une peinture qui a quand même l'horizon mystique toujours présent, alors qu'avec Velázquez, on est dans des portraits qui sont soit des portraits de cour, soit des portraits de nains, de bouffons, de philosophes de comédie. C'est pas du tout la même chose.
Mais c'est pas du tout la même commande, parce que justement, parce que Velázquez est un peintre de cour, il est théoriquement censé peindre uniquement pour le roi. Et le roi peut, à l'occasion, lui demander des tableaux religieux, il lui en a demandé d'ailleurs, mais il lui demande principalement des portraits des courtisans, des portraits des bouffons de la cour, etc. Gréco, lui, travaille pour des commanditaires plus privés, entre guillemets, et pour l'église. Donc c'est assez fatalement différent comme type d'œuvre.
France Culture et la Compagnie des œuvres. Nous parlons du Gréco dans son siècle, le siècle d'or, avec vous, Guillaume Kintz. On parle de Gréco et des autres peintres, fatalement. Il faudrait peut-être citer un petit peu Zurbaran, qui est moins connu, en tout cas moins documenté dans sa vie que Velázquez, ou même sans doute que le Gréco. On sait pratiquement rien, hein, finalement, de lui.
On sait surtout rien des débuts de Zurbaran. Il naît à la frontière entre l'Andalousie et le Portugal. Et pendant ses premières années, on ne sait pas du tout comment il se forme, où il se forme, ce qu'il y fait. On va redécouvrir sa trace dans les années 20, fin des années 20 à Séville. Et là, c'est le Zurbaran qu'on connaît. Mais pour le coup, c'est un artiste qui a des ambitions très très différentes et de Gréco et de Velázquez. Il reste vraiment attaché au foyer andalou, alors que Velázquez va tenter sa chance et réussir à faire carrière à Madrid. Zurbaran va travailler parfois de manière très sérielle, en remettant assez peu en question son esthétique et ses formules pour les couvents et les églises d'Andalousie. Il a une technique qui est absolument sublime, mais ce n'est pas du tout un peintre qui interroge l'image comme Gréco peut interroger l'image, par exemple.
Non, ce qui les rapproche, c'est peut-être le rapport à la religion. Ce sont deux peintres très religieux.
Je ne sais pas sincèrement si ce sont deux peintres très 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 religieux. Ils ont la religion de leur temps, ça c'est absolument certain. Et ils obéissent à des commandes. On leur commande de la peinture religieuse. Ils font de la peinture religieuse. Et le principe du sujet, si le sujet doit inspirer la dévotion, eh bien ils vont mettre de la dévotion dans leur peinture. C'est difficile de vraiment de juger de leur foi, et en tout cas ça n'appartient pas à l'historien de l'art de le faire.
Vous avez cité le Portugal, comme ça en passant, à propos de Zurbaran. Est-ce que ce siècle d'or, c'est le siècle d'or ibérique, ou est-ce qu'il faut faire une différence entre l'Espagne et le Royaume de Portugal à l'époque?
Non, c'est véritablement un siècle d'or ibérique. Le Portugal, ce qui est compliqué avec toutes ces histoires, c'est que c'est pas forcément les mêmes rythmes, c'est pas synchrone comme grand mouvement. Le Portugal va faire partie ou non partie de la couronne espagnole selon le moment qu'on va considérer. Ce qui est fascinant à étudier au Portugal, c'est le 16e siècle. Le 16e siècle, portugais pour la peinture est vraiment le grand siècle. Ensuite, il va y avoir une sorte de renaissance au milieu du 17e siècle avec quelques artistes et puis au 18e siècle. Mais c'est un peu plus saccadé, disons.
Donc tous les pays finalement ont leur siècle d'or à quelques décennies près, en fait.
Parfois de grandes décennies près. Le problème avec cette notion de siècle d'or, c'est qu'on l'a fait rentrer en collision avec le grand siècle, avec l'âge d'or hollandais, etc. On n'est pas sur les mêmes temporalités. Par exemple, c'est très clair que le grand siècle français commence quand le siècle d'or espagnol s'arrête, d'une certaine manière.
Il y a des vases communicants qui s'opèrent.
Le pivot, c'est Louis XIV. C'est en gros en 1661 quand vont mourir Velázquez et bientôt Philippe IV, c'est vraiment le déclin. C'est l'étoile espagnole brillait encore un tout petit peu, mais elle était déjà morte. Et le déclin va s'amorcer économiquement, politiquement, dans les arts un peu moins vite, en Espagne. Alors que, au contraire, la France est en train de se constituer comme un grand siècle d'art, comme une grande nation. Enfin, est en train d'inventer son art national d'une certaine manière avec Louis XIV. Et c'est ça le grand siècle. Mais Louis XIV épouse Marie-Thérèse. C'est la fille de Philippe IV. Il y a un renversement de rapport de force, un renversement de centre de gravité entre Madrid et Paris.
Donc tout part de l'Italie, va peut-être au Portugal, en Espagne, puis en France. Il faudrait aussi rajouter les Pays-Bas.
Faudrait rajouter les Pays-Bas, et c'est pas un mouvement qui est univoque. C'est-à-dire que le François Ier ramène l'Italie en France également. Les Pays-Bas vont apporter énormément de choses en Italie dès la Renaissance. Les architectes français font des cathédrales gothiques en Espagne. Enfin, c'est un grand bouillon de culture, l'Europe. Et malheureusement, on est un peu prisonnier parfois des catégories de pensée nationales. Et en fait, non, les artistes bougent, les artistes voyagent. Et au fond, après, nous, on les range dans des tiroirs. Mais les artistes ne sont pas toujours très disciplinés et parfois ne se laissent pas ranger dans les tiroirs.
Non, il ne faut pas ranger les artistes dans les tiroirs. Et puis surtout pas le Gréco, qu'on pourrait peut-être même passer à la moulinette de la psychanalyse.
Regardez, la Vierge. Regardez le regard de la Vierge. Elle regarde le nez et qui ne respire plus, avec ses narines dilatées extraordinaires, hein, et cette lèvre supérieure qui avance un peu comme la lèvre des bébés qui têtent, et la Vierge regarde ce carrefour oral de son fils, comme lorsqu'il était bébé, elle regardait la santé de son bébé, à ce nez bien dilaté des bébés et à sa bouche qui était rassasiée. Il est rassasié de souffrance, là. Il est rassasié de la vie humaine. Alors elle a la main sous sa nuque, tout amour de femme s'exprime en mettant la main derrière la nuque de l'homme qu'elle aime. Là, c'est un homme, ce fils, et un bébé, on le tient aussi comme ça. Mais regardez aussi son autre main. Son autre main passe par-dessus son sexe, oui, et va le serrer à la hanche. Et sur ce tissu, regardez ces ombres extraordinaires que l'inconscient de Gréco y a mises. Il y a comme une forme de sexe féminin, une forme de sexe masculin. On dirait qu'il a rédimé toutes les pulsions du corps et qu'il est venu sur Terre pour aider les humains à accomplir leur vie de croissance, de désir sexuel qui leur permet de multiplier et de persévérer dans l'espèce grâce à la médiation des individus. Mais les individus vivent des pulsions qui les attirent les uns vers les autres et tout là est rédimé.
Et oui, c'était bien Françoise Dolto évoquant la Pietà du Gréco, qui est d'ailleurs présente dans votre exposition. Pietà dont l'attitude peut tout rédimer. Donc je précise que rédimer, vous le saviez sans doute, signifie sauver. C'est un vocabulaire religieux. C'est vrai qu'on peut interpréter aussi par la psychanalyse, par l'érotisme aussi, parce qu'il y a ça chez le Gréco, ces peintures. En l'occurrence, sur la Pietà, je ne sais pas si vous auriez pu tenir le même discours, Guillaume Kintz.
En tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est à quel point Gréco est un aimant à projection. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais ce qu'il y a exactement dans sa tête. On sait, parce qu'on peut le voir, ce qu'il y a sur sa peinture. Mais sa peinture, elle nous touche si directement, si profondément, que Gréco nous met sur le divan et qu'on se lâche, d'une certaine manière. Et que Barrès y revit son exaltation, Françoise Dolto y revit ses questionnements.
Cocteau aussi.
Et voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande force de Gréco, ce qui fait qu'il a parlé bien plus vite aux écrivains, aux poètes, aux artistes, et seulement après aux historiens de l'art qui s'en sont un petit peu méfiés. Ils se méfient de cet artiste qui n'a pas besoin d'eux pour parler au public. Ça paraît un peu louche. Il a longtemps été méprisé par les historiens de l'art. Mais donc je suis vraiment fasciné par le pouvoir de cet artiste à travers ses images. Donc évidemment, il y a de l'érotisme dans la peinture de Gréco, parce qu'il y a une recherche de perfection des corps, et cette perfection des corps, elle se manifeste, elle s'exprime par une érotisation, au sens de rendre tangible la beauté sensuelle de la création divine, d'une certaine manière. Donc c'est pas particulièrement profane ou quoi que ce soit, mais c'est simplement, surtout pour une Pietà, cette relation si féconde entre Eros et Thanatos.
Et alors, on a envie de vous demander quel est votre Gréco à vous. Qu'est-ce que vous y projetez, Guillaume Kintz?
Alors, qu'est-ce que je projette dans Gréco? J'en sais rien. Peut-être qu'un aveu sera ce que moi je trouve frappant dans Gréco. Ce que je trouve frappant dans Gréco, c'est son obstination, c'est son opiniâtreté, c'est sa force, c'est la manière dont il avance, la manière dont il crée un univers qui n'appartient qu'à lui, dans lequel il puisera encore. Les risques qu'il prend tout au long de sa vie, les risques de se réinventer, les risques de se fâcher avec le roi, les risques de se fâcher avec le chapitre de la cathédrale de Tolède en refusant de faire des modifications dans un tableau alors qu'on lui demande. C'est ce caractère entier, absolument subjugant.
C'est son côté Freddy Mercury, hein, on y revient.
C'est peut-être son côté Freddy Mercury.
Ça, c'est un extrait de la bande originale d'Ivan le Terrible du réalisateur russe Sergei Eisenstein sur une musique signée par Prokofiev. Qu'est-ce qu'il a projeté, lui, dans le Gréco? Parce qu'il s'est beaucoup inspiré, il a beaucoup regardé cette peinture. Est-ce que ça vous saute aux yeux, vous, quand vous regardez Ivan le Terrible?
Ça ne me saute pas forcément aux yeux quand je regarde Ivan le Terrible, mais quand je lis ce qu'Eisenstein a écrit sur Gréco, je comprends complètement ce qu'il a trouvé dans Gréco.
C'est bien qu'on projette vraiment.
Absolument. Et d'une certaine manière, l'exposition, à travers son le travail qu'on a essayé de faire sur invention, variation, réinvention, eh bien rentre complètement en résonance avec ce qu'écrit Eisenstein. D'ailleurs, je confesse avoir lu le texte d'Eisenstein après avoir commencé à concevoir l'exposition, parce que Eisenstein voit dans le travail en Gréco, notamment le travail en série de Gréco, différents moyens de cadrer une scène, différents moyens d'éclairer une scène, donc une temporalité aussi. La peinture de Gréco, c'est une peinture qui a une temporalité. Dans l'exposition, on a mis côte à côte un Christ au Mont des Oliviers, qui est une première version par Gréco, absolument sublime, construite, véritablement parfaite, raffinée, et à côté, une répétition par l'artiste lui-même, extrêmement synthétique, extrêmement rapide. Et on voit très bien ces deux tableaux, le travail que pourrait faire un cinéaste, où d'abord il écrit sa scène, il la compose, il la voit comme ça, il la tourne une première fois, et puis il se dit non, ça va pas, donc je vais la retourner, vous allez me mettre plus de lumière ou moins de lumière, on enlève des accessoires, on rajoute des accessoires, et on avance. Et Gréco, en fait, il se réinvente comme ça, un peu comme un cinéaste peut faire plusieurs prises pour une même scène.
Donc c'est un peu aussi comme ça qu'on le comprend, vous avez imaginé cette exposition. Puisqu'on arrive à la fin de l'émission et qu'on a la chance de vous avoir sous la main, on aimerait en savoir un tout petit peu plus sur la provenance des différentes œuvres. C'est beaucoup d'années de travail, j'imagine. D'où viennent ces œuvres et qu'est-ce que ça nous dit finalement de la place du Gréco en France, dans les collections françaises ou dans les collections étrangères, puisque j'imagine qu'elles viennent surtout ces œuvres d'ailleurs que de France.
Alors d'abord, il faut se souvenir que Gréco a été redécouvert à la fin du 19e siècle. Donc d'une certaine manière, il est sorti des radars des musées lorsque les musées ont commencé à composer leurs collections, qui sont souvent le fruit des collections royales. Or, Gréco n'est pas un artiste de la famille royale. Donc il était en dehors un tout petit peu des radars. Ensuite, il a été redécouvert non pas par les historiens de l'art ou les conservateurs du musée, mais par les écrivains, les esthètes, les critiques d'art, les artistes eux-mêmes et les collectionneurs de ces artistes. Donc il est souvent acheté par des riches collectionneurs d'art contemporain de l'époque, impressionnistes, avant-garde, et ce sont beaucoup des Américains. Donc aujourd'hui, la spécificité et de fait, la difficulté de faire une exposition Gréco, c'est que les œuvres sont partout dans le monde et beaucoup aux États-Unis. Je crois que les tableaux les plus importants, ou vraiment une grande concentration de tableaux importants de Gréco, se trouvent aux États-Unis, à Washington, au Metropolitan, par exemple, ou dans beaucoup d'autres musées moins connus, mais connus pour leur Gréco.
En France, combien de Gréco dans les collections nationales?
Alors en France, il y a 3 Gréco au Louvre, il y a 1 Gréco à Strasbourg, il y a un portrait Gréco à Amiens et il y a 2 Gréco au musée Bonnat de Bayonne et voilà. Des tableaux d'atelier.
Et on comprend que ça a peut-être beaucoup aidé que vous travailliez, Guillaume Kintz, aux États-Unis. Je rappelle donc que vous êtes le co-commissaire de l'exposition Gréco qui ouvre aujourd'hui. Il faut y aller au Grand Palais à Paris. Vous êtes aussi auteur d'un beau livre sur le siècle d'or qui parle Carré chez Citadel et Masno. Tout de suite, on retrouve en compagnie des revues.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Compagnie des revues avec aujourd'hui Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour Guillaume.
Vous venez nous parler aujourd'hui de deux écrivains particulièrement clairvoyants.
Oui, je viens de vous parler aujourd'hui de George Orwell, l'auteur de 1984, et d'Aldous Huxley, celui du meilleur des mondes. En effet, ce dossier part d'une réflexion assez simple. Il nous semblait que les prétentions des transhumanistes californiens à améliorer l'homme, eh bien, avaient quelque chose à voir avec le système de caste qu'avait imaginé Huxley dans son meilleur des mondes. Et de même, il nous semblait que les technologies de surveillance et de captation des données qui nous font si peur aujourd'hui avaient été entrevue par George Orwell à travers les télécrans de 1984. C'est d'ailleurs assez surprenant ce retour en pertinence de George Orwell, parce que dans les années 80, avec la chute du mur de Berlin et du régime communiste, nous tendions à juger Orwell dépassé. Après tout, le but de 1984 était d'attaquer la dictature stalinienne. Et en fait, bien Donald Trump et ses fake news, Xi Jinping et son système de contrôle social électronique ont remis involontairement Orwell au goût du jour et 1984 au sommet des palmarès. Et effectivement, en poussant un petit peu notre réflexion, nous sommes dit que bien notre monde se trouvait peut-être à la croisée de leurs deux visions. Alors, on a sollicité évidemment des spécialistes, comme toujours. Pour parler d'Orwell, on a demandé à un Anglais, Gregory Claes, qui est professeur d'histoire politique à Londres, qui nous confirme que bien sûr, l'invention des fake news et la transformation des faits en opinion, ça rappelle la réécriture perpétuelle de l'histoire telle qu'elle est menée sur le continent océanien dans 1984, les lynchages collectifs qui ont lieu aujourd'hui sur Internet, eh bien rappellent les minutes de haine de 1984. Mais ce que nous dit aussi ce professeur d'histoire politique, c'est que les télécrans de George Orwell, ces télévisions qui nous regardent en même temps que nous les regardons, sont bien innocentes face aux technologies de surveillance que nous avons inventées depuis, et que peut-être aussi un autre élément de clairvoyance d'Orwell serait à chercher du côté de l'écologie. Orwell avait une attention à l'environnement, on le voit d'ailleurs dans 1984 quand Winston Smith s'en va avec son amoureuse dans un endroit bucolique pour échapper à la surveillance de Big Brother. Voilà.
Alors toujours dans ce dossier du magazine littéraire, il y a un article du génétique Axel Kahn.
Oui, alors là, on a demandé bien sûr à Axel Kahn de s'intéresser à la lumière du meilleur des mondes, aux diverses tentatives qui ont été lancées pour améliorer l'humanité par la génétique. Et cet article nous rappelle d'abord les liens étroits entre Aldous Huxley et la génétique, puisqu'il faut savoir que son grand-père était un darwinien féroce, un des premiers compagnons de Darwin. On l'appelait d'ailleurs le bulldog de Darwin. Et le frère d'Aldous, Julian, était lui un biologiste partisan d'ailleurs de l'eugénisme. Et c'est sans doute à partir de ce background, en quelque sorte, que Huxley a commencé à établir sa réflexion. Bien sûr, on s'intéresse aussi à la politique, on s'intéresse, ça va sans dire, à la littérature, d'abord à travers le vocabulaire que Orwell nous a légué, à travers aussi la façon dont il décrit le travail sur la langue mené par le régime dictatorial de Big Brother. Et puis, on s'intéresse à leur postérité, puisqu'il est évident que sans Orwell, sans doute, il n'y aurait pas eu de Ray Bradbury, pas eu de Margaret Atwood, et nos adolescents seraient bien tristes puisqu'ils ne pourraient pas lire les Hunger Games de Susan Collins.
Et on ne saurait pas lire, en effet, la science-fiction. Merci beaucoup.
Merci Mathieu.
Alexis Broca, tout cela est évidemment à retrouver dans les colonnes du nouveau magazine littéraire. La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Alexandre Dang. Demain, on se retrouve une dernière fois autour du Gréco avec comme invité le peintre Jean-Paul Marcheschi qui évoquera son rapport au peintre, le Gréco lui, et aussi à la postérité du Gréco, notamment au XXe siècle. Puis ce soir sur France Culture, n'oubliez pas de retrouver le troisième épisode du complexe de l'Hippocampe de Guillaume Adler dans le feuilleton. C'est à 20h30. Tout de suite, on retrouve les sciences.